Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des accusations de coup d'État, des pénuries de nourriture et de médicaments, la crise politique sur fond d'échecs économiques a jeté des centaines de milliers de personnes dans les rues hier au Venezuela.
Justin Trudeau est resté finalement au Canada. Le sommet pour signer le CETA, le traité de libre-échange avec l'Europe, est reporté. La Wallonie bloque toujours la ratification.
Et c'est toute la Corée du Sud qui s'inquiète des résultats et des changements ce matin à la tête de Samsung. Après les déboires de son dernier téléphone, nous verrons la place démesurée qu'occupe le groupe dans le pays.
En France, la jungle de Calais entièrement évacuée selon les autorités, mais les candidats à l'exil outre-Manche n'ont pas tous abandonné leur projet de rejoindre le Royaume-Uni.
Et les apiculteurs français se réunissent aujourd'hui en congrès, une filière menacée. Les abeilles sont les premières à souffrir des menaces environnementales. Une démonstration de force au Venezuela. L'opposition de centre-droit vient de réussir à faire descendre des centaines de milliers de partisans dans la rue, partout dans le pays. L'objectif, chasser le président Nicolas Maduro du pouvoir en relançant le processus de référendum de révocation. Processus stoppé par le régime la semaine dernière. Les anti-Maduro ne baissent pas les bras donc. Julien Gonzalez, le correspondant de RFI au Venezuela, était dans le cortège à Caracas, la capitale.
Aux alentours de midi, l'autoroute principale de Caracas était littéralement noire de monde. Une nouvelle démonstration de force après la marche du 1er septembre à Caracas. Mais pour Carlos León, c'est surtout la preuve que l'opposition est bien la majorité.
Si une élection présidentielle a pu être organisée en 30 jours après la mort de Chavez, pourquoi les autorités électorales n'organisent pas un référendum en 30 jours également? Où ça prouve que le Conseil national électoral est une annexe du gouvernement? Mais le centre de gravité a bougé. Nous sommes 80% contre le président. Ce n'est plus le moment de la négociation, c'est le moment du changement.
Liberté pour le Venezuela, c'est le slogan écrit sur le t-shirt de Jorge. Employé dans la publicité, il appelle les ténors de l'opposition à passer à l'action dans les jours qui viennent.
Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Des gens meurent au Venezuela à cause de la pénurie de médicaments ou parce qu'ils ne mangent pas assez. Nous sommes 30 millions d'habitants dans ce pays et je suis sûr qu'il n'y a pas un seul Vénézuélien qui ne se sente pas mal à cause de cette situation. Donc pour moi, un référendum révocatoire cette année, c'est possible, à condition de ne jamais baisser la pression.
Demande entendue, l'opposition appelle à une grève générale ce vendredi.
Julien Gonzalez au Venezuela pour RFI et France Culture. Un responsable du régime vient d'annoncer que l'armée prendra le contrôle des entreprises qui se joindraient à la grève générale convoquée par l'opposition. Une crise politique sur fond de naufrage économique, on l'entendait dans le reportage, avec des pénuries en tout genre. La conséquence de la dépendance du pays à la manne pétrolière et de la chute brutale des cours du brut. Les partisans du CETA y voient une chance pour les entreprises canadiennes et européennes. Mais ils vont devoir encore patienter avant la signature du traité de libre-échange entre Ottawa et Bruxelles. Le sommet pour la signature prévu aujourd'hui est annulé. Justin Trudeau n'a pas pris l'avion cette nuit. Un report, précise le cabinet du Premier ministre canadien, en attendant de convaincre la Wallonie. Le Parlement régional belge maintient son veto au texte et bloque le vote de la Belgique. Un veto bien isolé, finalement, puisque les 26 autres pays sont prêts à signer le CETA. L'accord a rassemblé un consensus bien plus large que l'autre traité de libre-échange encore en discussion. Celui avec les États-Unis, on l'appelle TTIP ou TAFTA. Sur le fond, l'esprit est le même, réduire les barrières douanières. Alors pourquoi le CETA passe mieux auprès des Européens? Belgique exceptée. Des éléments de réponse avec Delphine Simon.
Principale différence, les négociations avec le Canada ont été plus équilibrées. De part et d'autre, on a fait des efforts. Les Européens pour élargir leur quota d'importation de viande bovine, le Canada pour ouvrir ses marchés publics et reconnaître les AOC européennes, même si la liste est plus courte qu'espérée, 143 produits seront protégés au Canada, dont le Roquefort. Sur ces deux points, à ce stade, les États-Unis refusent de faire la moindre concession. Autre sujet de friction, le poids des multinationales sur les décisions des États. Le Canada a fait un pas il y a 9 mois en acceptant la solution européenne d'un tribunal permanent dont les auditions seront publiques, tandis qu'avec les États-Unis, aucun accord ne se dégage. Le traité transatlantique est loin d'être bouclé, mais une chose est sûre, la crainte est forte entre l'Europe et les États-Unis de se voir imposer le modèle de l'autre, car l'impact des traités ne sera pas le même avec les États-Unis, l'un des tout premiers partenaires commerciaux de l'Europe, ou avec le Canada qui pointe seulement à la 12e place des échanges européens.
Et pour convaincre les dernières réticences wallonnes, une nouvelle réunion est prévue ce matin à Bruxelles entre les partis belges d'abord, puis entre les ambassadeurs des 27 européens ensuite. L'autre rendez-vous économique du jour sur la planète, c'est le changement de patron à la tête de Samsung en Corée du Sud. Le fils du PDG et successeur désigné au sommet de l'empire familial vient d'être nommé au conseil d'administration. Un passage de témoin controversé au moment où le groupe traverse une grave crise. Les explosions de son dernier smartphone, le Galaxy Note 7, ont fait chuter de 30% le bénéfice opérationnel au dernier trimestre. Et c'est un pays entier qui observe avec crainte ces péripéties, tant Samsung occupe une place démesurée en Corée du Sud. C'est un reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les Coréens surnomment leur pays la République Samsung. Ici, on peut vivre dans un appartement Samsung, s'assurer Samsung, aller à l'hôpital Samsung et acheter son frigo Samsung avec une carte de crédit Samsung. L'image de l'entreprise est si liée à celle du pays et la crainte d'écorner la réputation nationale si forte que dans la rue, beaucoup partent en courant dès qu'on leur tend un micro.
Je suis coréenne, je ne peux pas dire du mal de Samsung.
D'autres sont plus loquaces, Kim Hee-kyung, 23 ans, et Monsieur Lee, 70 ans.
Il y a des étrangers qui ne savent même pas où est la Corée et qui connaissent tout de Samsung. J'ai vraiment peur que ce fiasco du Note 7 donne une mauvaise image de notre pays. Cela m'inquiète beaucoup.
Bien sûr que cette affaire aura un impact sur l'image de la Corée. J'ai l'impression qu'on en a plus parlé à l'étranger que chez nous.
La crise aura un impact sur l'économie nationale. L'entreprise représente à elle seule 20% des exportations coréennes. Le fils du grand patron, Lee Jae-yong, 48 ans, s'apprête à reprendre les rênes de l'empire, alors qu'il n'a encore jamais fait ses preuves.
La Corée du Sud, ce n'est pas comme les autres pays. Transmettre son entreprise à ses enfants, c'est la tradition. Et on ne peut rien y faire.
Moi, je pense que cette tradition est mauvaise pour le développement des entreprises. Plutôt qu'un héritier, ce serait mieux de nommer un expert à la tête de Samsung.
Remettre en cause Samsung est délicat. Cela signifie remettre en cause tout un modèle économique à l'origine du développement spectaculaire de la Corée ces dernières décennies.
Frédéric Ojardias, en Corée du Sud. L'actualité à l'étranger ce matin, c'est aussi ce nouveau drame de la guerre en Syrie. L'UNESCO rapporte qu'une école a été la cible de bombardements aériens à plusieurs reprises dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués selon l'organisation onusienne. Une tragédie, un scandale. Et si cette attaque est délibérée, c'est un crime de guerre, dénonce le directeur général de l'UNICEF. Et puis à propos de la Syrie, ne manquez pas après ce journal l'invité exceptionnel de Guillaume Erner de 8h20 à 8h40. Le maire d'Alep vient nous raconter le martyr enduré par sa ville. Britta Ag Hassan est l'invité ce matin de France Culture. L'Italie tremble au sens propre du terme. Deux secousses ont été ressenties hier, magnitude 5,5 puis 6,1 ressenties dans le centre du pays. Le séisme n'a pas tué cette fois, seulement quelques dizaines de blessés légers. Mais la péninsule reste traumatisée par le tremblement de terre à Amatrice qui avait fait 300 morts l'été dernier. Plusieurs journaux italiens ce matin titrent « Le cauchemar sans fin ».
8h08, la suite du journal sur France Culture, Amélie Perrier avec une mission accomplie à Calais.
Mission accomplie, ce sont les termes de la préfète du Nord-Pas-de-Calais. Le dernier quart de migrants vers un centre d'accueil en France est parti hier du bidonville. Au total, en trois jours, 5600 étrangers ont été sortis de la jungle et pris en charge. Aujourd'hui, les engins vont finir de détruire et de déblayer les abris de fortune et les tentes. Mais est-ce pour autant la fin du problème à Calais? Pas sûr. De nombreux exilés sont bien décidés à revenir, comme a pu le constater sur place Thibault Lefebvre.
Avec ses trois pulls noués sur les épaules et son sac à dos bien rempli, Karim tire une valise à roulettes. Direction le sas d'accueil de la jungle. Cet Afghan de 29 ans s'est résigné à partir.
On a décidé de partir et de prendre un bus pour je ne sais quelle ville en France. Pour le moment, c'est impossible d'aller en Angleterre. Tous les accès sont bloqués et la police est partout. Mais à l'avenir, on va retenter notre chance.
Comme beaucoup de migrants contraints au départ, le centre d'accueil et d'orientation est une nouvelle étape dans le parcours d'exil de Karim. La finalité reste l'Angleterre. François Guénoc est vice-président de l'association L'Auberge des Migrants.
Il y a des gens qui arrivent encore, il y aura des nouveaux arrivants. Ça a toujours été comme ça après les démantèlements de camps. D'autres camps se sont reconstitués. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont été sorties des bateaux en Méditerranée. Il y aura des gens qui vont revenir des CAO. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les laisser dormir dehors dans la campagne? C'est quand même une question importante.
Le dispositif policier renforcé est maintenu pour quelques jours. Il permet pour le moment d'éviter la formation de nouveaux camps de fortune. De nombreux migrants sont en revanche partis par leurs propres moyens. Leur destination privilégiée, Paris.
Thibault Lefebvre, à Calais. L'État au chevet de la police après la rencontre entre les syndicats et le président Hollande hier soir. 250 millions d'euros ont été débloqués pour calmer la colère des forces de l'ordre. Une enveloppe surtout pour du nouveau matériel, plus moderne, et pour rénover les commissariats. Les syndicats se disent satisfaits, mais aujourd'hui, ils ne représentent plus les agents en colère qui manifestent sans eux. D'ailleurs, après l'annonce du plan gouvernemental pour la police hier, des cortèges sauvages se sont formés à Marseille, à Lyon ou encore au Mans. Voilà une autre profession en souffrance, les apiculteurs. Ils se réunissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche à Clermont-Ferrand pour le Congrès national de l'apiculture française. L'enjeu, c'est la survie d'une filière. Les abeilles sont aujourd'hui menacées. Leur taux de mortalité a explosé ces dernières années. Un stigmate des menaces sur l'environnement. Pour comprendre, Viviane Le Guen s'est rendue chez un apiculteur dans les Yvelines. Reportage.
Bonnel, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. C'est ici, tout près de la forêt de Rambouillet, que Pascal Valois a installé son cheptel il y a 3 ans.
Les ruches que vous avez ici sont des ruches d'abeilles noires.
300 ruches au total, un nouveau départ après une quinzaine d'années passées dans le Gers. 15 ans durant lesquels il a vu sa production de miel baisser régulièrement.
Quand je me suis installé, on était dans des niveaux de production qui étaient de l'ordre de 30 kilos par ruche. C'était des productivités qui permettaient de vivre. Puis ça a baissé régulièrement pour atteindre 15 kilos à peu près dans les années 2008-2009-2010.
Victime des parasites, du frelon asiatique, de l'usage des pesticides, les apiculteurs sont aussi confrontés au bouleversement climatique. Conséquence, dans les ruchers, les taux de mortalité explosent.
Le principal moyen qu'on a de s'adapter, disons, à cette difficulté, c'est d'élever davantage, de produire davantage de jeunes rennes, de produire davantage d'essaims pour renouveler un cheptel qui s'use. C'est un effort considérable qu'on est obligé de faire pour arriver à survivre en tant qu'apiculteur professionnel.
Pour survivre, Pascal Valois a aussi fait le choix de travailler avec des abeilles plus productives, les Buckfast. Ça ne lui permet pas d'aligner ses prix sur ceux du miel importé, vendu 30 à 50% moins cher, mais il refuse de céder à la fatalité.
Le travail qui devrait aboutir à une modification des procédures d'homologation des produits phytosanitaires, qu'on prenne en compte d'une manière scientifique l'impact des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché sur la santé des colonies. Ça, c'est très porteur d'avenir. Il faudra du courage aux politiques pour accompagner ce mouvement et pour contrebalancer le poids que peuvent prendre les lobbies pharmaceutiques.
Et pour mieux se faire entendre auprès des pouvoirs publics, Pascal Valois milite enfin pour la création d'une interprofession.
Et pour aller encore plus loin sur l'enjeu de la protection des abeilles aujourd'hui, retrouvez notre dossier complet sur franceculture.fr. Voilà pour les abeilles. Ce matin, le WWF lance une alerte encore plus large dans son rapport annuel. Près de 60% des vertébrés ont disparu ces 40 dernières années sur la planète. Pour être précise, 58% des mammifères, des poissons, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles dans le monde se sont éteints. Et si l'on ne fait rien, le WWF nous avertit, le déclin pourrait atteindre 67%. Les deux tiers de la vie sauvage d'ici 4 ans, donc en 2020. Alors pour terminer le journal sur une note plus positive, je vous propose un peu de musique. Pas n'importe quel morceau, je vous propose la musique du futur que vous pourrez entendre en concert ce soir à la Gaîté Lyrique à Paris. Des titres composés grâce à un algorithme d'intelligence artificielle. Le projet a 5 ans, il s'appelle Flow Machines et il s'agit de créer des musiques dans lesquelles on retrouve le style d'un ou de plusieurs compositeurs. Louise Rollet vous explique tout.
Mr. Shadow, c'est le nom de cette chanson, une chanson composée par une Flow Machine et arrangée par le musicien Benoît Carré. Dans Mr. Shadow, on retrouve les styles de grands compositeurs américains comme Duke Ellington. Ce projet d'algorithme d'intelligence artificielle est dirigé par François Pachet, un musicien semi-professionnel et ingénieur informatique. En fait, ces algorithmes piochent dans une base de données de 13 000 chansons et ils déterminent les styles des musiciens en fonction des récurrences, dans les enchaînements de notes ou d'accords. Le but de François Pachet n'est pas d'imiter un compositeur, mais de produire de nouvelles formes de création musicale.
La machine propose des solutions, elle propose des idées qui ne seraient pas forcément des idées que le musicien aurait trouvées, disons, tout seul. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de faire des chansons pop dans lesquels il y a des harmonies, des mélodies intéressantes. Ce qui n'est pas tellement dans l'air du temps aujourd'hui.
François Pachet et les musiciens qui l'accompagnent prévoient de sortir des albums et de les commercialiser.
On a montré que la machine était capable de faire des choses intéressantes. Mais les gens n'écoutent pas ces musiques comme ils écoutent de la musique normale. Ils les écoutent comme des artefacts technologiques. Donc l'écoute est biaisée. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse de la musique et que les gens l'écoutent de manière normale. Et si possible, qu'elle rencontre son public, voir qu'elle ait du succès, etc. C'est ça qui m'intéresse.
Il ne faut pas avoir peur des Flow Machines, précise-t-il aussi, elles ne remplaceront pas les musiciens, mais ouvrent de nouvelles possibilités.
Voilà, le concert des Flow Machines ce soir donc à la Gaîté Lyrique à Paris dans le cadre du festival Intensive Science. Le temps de ce jeudi, ce sera d'abord gris puis ensoleillé, nous dit Météo France. Les minimales vont ce matin de 4 à 7 degrés en général, ça s'est rafraîchi. Cet après-midi, on devrait plafonner à 13 degrés à Arras, 14 degrés à Clermont-Ferrand, 15 degrés à Perros-Guirec, 16 à Paris, 19 à Toulouse et 22 à Marseille. Merci beaucoup à Emmanuel Faucillon qui m'a aidé à préparer ce journal. C'est à vous Guillaume Erner.
Merci beaucoup Amélie Perrier.